France Info.
D'abondantes pluies vers le Piémont pyrénéen et de la neige en montagne. Vous voyez que c'est pas fameux quand même, non ?
Bah non, et puis toujours la pluie. Oui. Merci Christine Peña. Vous écoutez France Info, il est 5h. Il faut un plan massif dans les ports et les aéroports pour lutter contre la criminalité organisée et le narcotrafic. C'est ce qui ressort de la réunion à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron hier. Un coup au cœur pour des milliers de clients de plusieurs banques. Ils ont à tort été débités une seconde fois pour une même opération. La faute à un bug au Crédit Mutuel Arkéa. Les 27 se sont mis d'accord hier. Les gardiens de la révolution islamique en Iran sont désormais classés organisation terroriste par l'Union européenne. Le football, Lyon termine en tête de la phase de Ligue. De la Ligue Europa, Lille jouera les barrages et l'autre affiche sportive ce matin, c'est l'Open d'Australie avec la première demi-finale. Alcaraz, Zverev, on fait le point dans quelques minutes. Emmanuel Macron durcit encore le ton dans la lutte contre les narcotrafics. Le président a organisé une nouvelle réunion à l'Elysée hier après-midi. Autour de lui, 7 ministres à qui il a demandé de renforcer l'arsenal policier et judiciaire dans la lutte contre le trafic de drogue et le démantèlement des cartels, avec de nouvelles mesures spécialement pour les Antilles. Paul Barcelone.
Pour lutter contre les narcotrafics dans les Antilles, exactement comme à Marseille. À la clé donc, un plan douane présenté d'ici un mois. Objectif muscler les contrôles dans les ports et les aéroports, avec l'utilisation de nouveaux scanners pour cibler, en plus des mules, les bagages et les frettes de marchandises. Des opérations coup de poing sont prévues dans les prochaines heures dans plusieurs avions. Mobilisation totale et massive, promet Emmanuel Macron. Pour appeler à une meilleure coopération avec les pays voisins, le président se rendra dans les Antilles prochainement, sans date connue à ce stade. En attendant, nouvelle campagne de sensibilisation. L'Élysée assume, je cite, de dire aux consommateurs qu'ils sont coupables de ce qu'il se passe en France. Lors de son dernier déplacement à Marseille en décembre, Emmanuel Macron avait annoncé le passage à 500 € de l'amende forfaitaire délictuelle et promis l'accélération des procédures de recouvrement pour éviter les impayés.
Paul Barcelone du service politique de France Info. Des milliers de comptes bancaires débités à tort une seconde fois. Le Crédit Mutuel Arkéa reconnaît un incident technique dans ses services. Mardi, le bug a redéclenché des transactions déjà comptabilisées. Le problème est en voie d'être résolu selon les experts. Les comptes sont progressivement recrédités. Les banques s'y engagent et demandent juste à leurs clients un peu de patience. Sophie Auvigne.
Des milliers de clients bancaires ont eu un choc cette semaine en découvrant que leurs comptes avaient été débités spontanément, sans être à l'origine des opérations. Que ce soit à la Caisse d'épargne, au Crédit coopératif, à la Banque populaire ou chez Boursorama. Que s'est-il passé ? Eh bien, des milliers de paiements par carte déjà débités ont été redemandés. Les ordres ont été envoyés par le Crédit Mutuel Arkéa, qui reconnaît un bug dans ses services. Il est encore difficile de dire combien de clients précisément sont concernés, pour quelle somme, mais le Crédit Mutuel Arkéa promet que des équipes d'experts sont mobilisées. 98% au moins des opérations en doublon ont bien été repérées et les comptes sont en train d'être recrédités. Ce sera visible pour les clients dans les prochains jours et bien évidemment, toutes les banques concernées assurent qu'il n'y aura aucun frais pour les victimes.
Sophie Auvigne, Sébastien Lecornu déclenchera une troisième et dernière fois ce matin le 49-3 à l'Assemblée pour engager la responsabilité du gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances après l'avoir déjà fait sur la partie recettes puis sur la partie dépenses. Le groupe Somfy, basé à Cluses, va supprimer près de 350 emplois sur 2800 en France, dont une grosse partie en Haute-Savoie. Au total, le groupe prévoit de supprimer 550 postes dans le monde dans le cadre d'un plan de restructuration des effectifs. Les sites français du pionnier de la maison connectée sont particulièrement concernés. L'entreprise est l'un des plus gros employeurs en Haute-Savoie et se dit victime du ralentissement du marché européen. France Info. Il est 5h04 dans le bras de fer entre Washington et Téhéran. Donald Trump espère ne pas devoir frapper l'Iran. Après avoir affirmé que le temps était compté avant une opération militaire si l'Iran n'accepte pas un accord sur le nucléaire. Les gardiens de la révolution en Iran sont aussi désormais classés organisation terroriste par l'Union européenne. Les 27 annoncent aussi des sanctions, notamment le gel des avoirs contre une vingtaine de personnalités ou d'entités accusées d'avoir joué un rôle dans la répression du début de l'année. Selon plusieurs ONG, le bilan serait de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de manifestants tués. Cette décision de l'Europe s'ajoute à la menace de cette intervention militaire américaine. Un régime iranien sous pression, mais qui promet de riposter. Agir à Mohamed.
La décision de l'Union européenne est une erreur stratégique majeure, dénonce le ministre des Affaires étrangères iranien. Abbas Araghchi accuse l'Europe d'attiser le feu en désignant les gardiens de la révolution comme organisation terroriste. Colère donc contre les Européens, mais aussi contre les Américains. Et là, c'est l'armée qui prend le relais. Son chef, le général Amir Attami, prévient, en cas d'intervention militaire des États-Unis, la riposte sera écrasante, dit-il, quand un autre porte-parole de l'armée lui rappelle que de nombreuses bases militaires américaines dans la région se trouvent à portée de missiles iraniens. Enfin, l'Iran menace toujours de bloquer le détroit d'Ormuz, passage clé pour le transport mondial de pétrole. Autant de déclarations qui ne laissent entrevoir aucune désescalade et pourtant, le dialogue n'est pas totalement rompu. Le même Abbas Araghchi est attendu ce vendredi en Turquie. Le pays propose de jouer les médiateurs entre Téhéran et Washington pour éviter à tout prix une guerre qui pourrait embraser toute la région du Golfe Persique.
Agira Mohamed, Donald Trump affirme avoir personnellement demandé à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes pendant une semaine en raison du froid exceptionnel. Et il assure que son homologue russe a accepté sa demande. La Maison-Blanche n'a pas donné d'autres détails. Pour la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, l'Ukraine est d'ailleurs confrontée à une catastrophe humanitaire à cause des températures glaciales. À Kiev, plusieurs centaines d'immeubles sont privés de chauffage après les frappes russes. Et dans ce contexte, l'énergie devient rare et précieuse, redirigée par les autorités vers les points critiques, c'est-à-dire les infrastructures vitales comme les hôpitaux. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours et certains établissements de santé doivent s'adapter. À Odessa, pour France Info, le reportage de Théo Renaudon.
Il y a un an, cet hôpital pour enfants a été frappé par un drone russe. Son générateur détruit, ses seules sources d'électricité en cas de coupure sont des panneaux solaires et des batteries, explique son directeur Sergei Verechak.
Avec ces panneaux solaires, on est très dépendant de la météo. Quand il fait beau et que les batteries sont entièrement chargées, on a environ 40 kW d'énergie. Avec un peu d'organisation, la polyclinique peut fonctionner 3 à 4 heures. Mais quand le blackout dure plus de 3 jours, là on doit faire autrement. On passe en téléconsultation ou alors on redirige les patients dans d'autres établissements.
Alors pour limiter la casse, des humanitaires fournissent des générateurs aux infrastructures critiques. Véronika Nikitina, porte-parole de l'UNICEF à Odessa.
Pour les aider, l'UNICEF a déployé une opération de soutien hivernal à grande échelle, notamment la fourniture de générateurs aux hôpitaux, aux services des eaux et aux stations de distribution d'eau.
Le manque d'électricité pousse désormais des habitants à aller dans les hôpitaux équipés de générateurs pour recharger leurs appareils et se réchauffer.
Théo Renaudon de RFI à Odessa pour France Info. Il est 5h08, le tennis avec les demi-finales messieurs à l'Open d'Australie. Et c'est Fabrice Abgral qui suit les matchs pour France Info. Le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz en ce moment face à l'Allemand Alexander Zverev, le numéro 3 Fabrice.
Ouais, cette demi-finale a débuté il y a maintenant 19 minutes et pour l'instant 3 jeux à 2 en faveur d'Alexander Zverev. C'est Carlos Alcaraz maintenant qui va servir pour égaliser à 3 jeux partout. Aucun des deux joueurs n'a perdu sa mise en jeu. Il n'y a aucun des deux joueurs pour l'instant ne s'est procuré la moindre balle de break sur le service adverse. Carlos Alcaraz vise une 8e finale en Grand Chelem, la toute première à Melbourne, car jusqu'à présent, bien, il n'avait jamais dépassé les quarts de finale à Melbourne. L'Open d'Australie, d'ailleurs, le seul Grand Chelem manquant au palmarès de Carlos Alcaraz. Zverev, lui, n'a jamais remporté portée de Grand Chelem malgré 3 finales disputées, dont une à Melbourne, c'était l'an passé, et il avait été battu en finale par Yannick Sinner. Voilà pour les enjeux, sinon c'est leur 13e confrontation, 6 victoires partout. Zverev a obtenu l'une de ses 6 victoires en Australie en 2024. C'était en quart de finale et Zverev l'avait emporté en 4-7 à l'époque, mais pour l'instant 3 jeux à 2 donc en faveur de l'Allemand.
Fabrice Abgral et la deuxième demi-finale à partir de 9h30. Novak Djokovic, actuel numéro 4 mondial, face au numéro 2, Yannick Sinner. À 5h09, la première tendance météo de ce vendredi avec Christine Peña.
Oui.
Et il pleut toujours.
Oui, c'est le jour sans fin en fait. Les perturbations défilent en arrosant parfois copieusement certaines régions. Alors, surtout celles les plus à l'ouest. Et d'ailleurs, ça ne va pas arranger ces histoires de débordement de cours d'eau en Bretagne. L'Ille-et-Vilaine et le Morbihan sont maintenus en vigilance orange pour ces fortes crues. La neige tombe également en montagne. Alors, ce qui n'est pas pour déplaire, en revanche, aux futurs vacanciers qui ont choisi le ski. La neige est au programme et va encore tomber d'ailleurs ce week-end très fortement demain. par exemple sur les Pyrénées.
Christine Peña, on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes, juste avant 5h30 pour une carte météo complète.
Le 8-30 France Info avec Adrien Beck et Mathilde Sirot, du vendredi au dimanche sur France Info.
Bonjour Mathilde Sirot.
Bonjour Adrien.
À 8h30, la grande interview de France Info.
Et où est le problème après tout, si les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord?
Un entretien sans concession.
Pour analyser et expliquer.
Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on a plutôt l'impression que les députés se font plaisir.
Le 8-30 France Info, c'est tous les jours sur France Info.
Un mois après la catastrophe de Crans Montana, France Info fait ce matin le point de l'enquête, état des lieux dans un instant avec le service police-justice.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Il est 5h11, un mois après l'incendie qui a fait 40 morts et 116 blessés en Suisse à Crans Montana. France Info fait donc le point de l'enquête dans laquelle le couple de gérants du bar est poursuivi. Jacques Moretti a incarcéré pendant 2 semaines avant d'être libéré sous caution la semaine dernière. Bonjour Aurélien Tirard.
Bonjour.
Et on apprend désormais qu'en plus du couple Moretti, 2 nouvelles personnes sont ciblées par la justice.
Oui, il s'agit des personnes chargées de la sécurité incendie dans la commune de Crans Montana. L'actuel responsable de la sécurité de la commune, recruté il y a un peu moins de 2 ans, et son prédécesseur. Désormais, ces 2 employés vont être très vite entendus par les magistrats du parquet général du canton du Valais. Le premier, ce sera dans 1 semaine, tout juste vendredi prochain, et le deuxième, 3 jours après, lundi 9 février.
Et que vont leur demander les magistrats ?
Eh bien, ils veulent savoir pourquoi la commune n'a pas effectué de contrôle de sécurité incendie aux constellations depuis 2019, alors que de tels contrôles doivent avoir lieu tous les ans, d'autant plus qu'en 2018 et en 2019, le responsable sécurité en poste avait relevé des problèmes sur les issues de secours dans ce bar, sans qu'il n'y ait ensuite aucun suivi ni contrôle de ces issues de secours.
Alors, quant à Jacques et Jessica Moretti, ils seront à nouveau entendus dans les prochains jours, dans moins de 2 semaines. Et Aurélien, vous avez pu consulter leur déclaration dans leur dernière audition.
Oui, pendant près de 10 heures chacun, ils n'ont cessé de renvoyer la responsabilité sur leurs employés, sur les autorités locales. Jacques Moretti ne se souvient pas d'avoir formé ses employés à la sécurité incendie, mais selon lui, les extincteurs étaient, je cite, « visibles ». Une affirmation pourtant contredite par une de ses employées. Ensuite, selon Jacques Moretti, la porte derrière laquelle plusieurs personnes ont été retrouvées mortes était normalement toujours ouverte. Il accuse nommément un employé de l'avoir fermée. Il assure que celui-ci a ensuite fui la Suisse. Concernant la présence dans le bar de mineurs de moins de 16 ans, ce qui est interdit, on est très vigilant, dit-il. Malheureusement, il y en a qui ont passé les mailles du filet et on ne comprend pas pourquoi. Et à propos de la fameuse mousse installée au plafond du sous-sol du bar, soupçonnée d'avoir propagé le feu, un magistrat demande « Savez-vous si cette mousse était ignifuge ?» Réponse « Je n'ai pas eu de contre-indication ». Et pourtant, dans une vidéo vieille de 6 ans, un de ses anciens employés, lors d'un réveillon aux constellations, demande à plusieurs personnes qui portent des bouteilles surmontées de bougies étincelantes de faire attention parce qu'elles se rapprochent trop de cette mousse. Cet homme, Hugo, sera entendu ce matin par la police suisse comme témoin.
Aurélien Tirard du service police-justice de France Info. Il est 5h14. Ségolène Royal, actuellement à Alger, doit rendre visite ce matin au journaliste français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme et emprisonné en Algérie. Ségolène Royal qui est devenue récemment présidente de l'association France-Algérie. Hier soir, une soirée de soutien à Christophe Glaise était organisée au Bataclan à l'initiative de Reporters sans frontières avec la participation notamment d'Alex Baupin, Malik Djoudi et Jeanne Chéral, un soutien fondamental pour Maître Emmanuel Daoud, l'avocat français du journaliste.
On est dans une nouvelle dynamique. Cette dynamique, elle passe par cette mobilisation. La Fédération française de football s'est mobilisée très rapidement, la Ligue professionnelle de football aussi. Des clubs aussi, 9 clubs de football ont pris les choses en main. Un regret, ce n'est pas une critique, c'est un constat. C'est que, par exemple, le Paris Saint-Germain, qui est l'un des clubs les plus puissants d'Europe, et dont Christophe Glaise, votre confrère, est un fervent supporter, pour dire les choses de façon un peu triviale et directe, n'a strictement rien fait. Je le dis aussi simplement et d'une façon un peu solennelle. Je regrette aussi que les joueurs professionnels ou anciens professionnels, il n'y en a que deux, Rai et Virkash Dorasso, qui se sont mobilisés, qui ont essayé d'actionner leur levier. On parle de Zinedine Zidane, mais on pourrait parler aussi d'autres joueurs de football. Donc les joueurs de football sont aussi des citoyens, ils n'ont pas tous 15 ans, ils ont 25, 30 ans, ils devraient se mobiliser. C'est pas encore le cas. Je suis pas là pour donner des leçons, je suis pas là pour être un maître d'école, mais encore faut-il que si cette mobilisation se propageait encore, notamment au niveau du football, je crois que ce serait une excellente chose. Pourquoi d'ailleurs ? Pour une raison simple, c'est que l'équipe d'Algérie, elle a été qualifiée pour la CAN, elle a été éliminée, je crois, en quart de finale, mais elle est aussi qualifiée pour la Coupe du Monde du mois de juin. Et je ne peux pas imaginer un seul instant que Christophe Glaise soit encore détenu dans une prison algérienne la veille ou l'avant-veille de la Coupe du Monde. Je pense que le poids politique, le poids sportif serait insupportable pour l'Algérie, pour son équipe nationale. Et là, je vois aussi un calendrier qui devrait, je l'espère, favoriser une libération rapide de Christophe.
Est-ce que la visite de Ségolène Royal est importante aussi pour vous et pour Christophe Glaise? On va rappeler évidemment qu'elle est sur place hein, et qu'elle est désormais présidente de l'association France-Algérie.
Voir que Madame Ségolène Royal, au cours d'un déplacement professionnel et après avoir parlé à des interlocuteurs algériens de très haut niveau et notamment, d'après ce que j'ai compris, au ministre de la Justice, a pu obtenir, sur sa demande, j'imagine, de voir Christophe Glaise, c'était pas évident, elle l'a obtenu, je ne sais pas dans quelles conditions, je n'ai pas parlé avec Madame Royal, mais en tout cas, c'est à l'évidence, pour moi, un signal positif. Et je pense que ça fera un bien immense à Christophe de voir qu'une personnalité de premier rang, parce que ça va être une surprise totale pour lui, lui rendra visite, peut-être avec un message particulier, je n'en sais rien, mais on verra bien demain ou après-demain.
Maître Emmanuel Daoud, l'avocat du journaliste français Christophe Glaise, emprisonné en Algérie, il répondait sur France Info à Julien Langlais. Il est 5h17, la sécurité routière dévoile aujourd'hui les chiffres des morts sur la route et dans ce contexte, le protoxyde d'azote inquiète de plus en plus les autorités. Ce produit qu'on appelle le gaz hilarant, en plus d'être dangereux pour la santé, il multiplie par 3 le temps de réaction au volant et pourtant, il n'est toujours pas interdit. Dernier accident où il est mis en cause, à Nanterre, une voiture en a percuté 2 autres. C'était en pleine nuit à la sortie de l'autoroute A86 avec un bilan d'un mort. Marc Bertrand a retrouvé pour France Info l'une des passagères de la voiture, cette jeune fille qui nous raconte sa version de ce qui s'est passé cette nuit-là.
Ses béquilles posées contre la table du salon, Erika regarde en boucle les photos de l'accident sur son téléphone.
Celle-là, ça c'est la voiture dans laquelle j'étais, moi j'étais passagère.
Ce soir-là, la jeune fille de 16 ans raconte qu'elle fait le mur avec sa copine de foyer quand elle rencontre des garçons en voiture.
Ils m'ont proposé de venir avec eux, moi j'ai dit oui. Le conducteur, il a demandé si on était tous d'accord pour prendre du protoxyde d'azote. Du coup, nous on a tous dit oui. On est parti dans une cité. Ils avaient déjà pris des bonbonnes là-bas. Ils avaient bu de l'alcool aussi. Un flash de vodka.
La Peugeot 208 s'arrête cité Pablo Picasso à Nanterre.
Ah, dans la rue.
Dans une file de voitures.
Comme si c'était un drive. La bonbonne, c'est 10 euros et le tank, 50. Tu fumes dans le ballon, tu aspires. Jusqu'à que ça te défonce, en fait.
La voiture repart et selon le récit de la jeune fille, ils consomment tous des ballons. Elle a le souvenir des lampadaires qui défilent et d'une voix rapide.
Mais en fait, moi, j'étais consciente quand même. Mais lui, je crois qu'il n'était pas conscient. Et en fait, il roulait très, très, très vite. 160, 170. J'ai dit ralenti. Mais après... Moi, j'ai vu que la première voiture qu'on a percutée, on a percuté la première voiture et après, je me suis évanouie.
Quand elle se réveille, des passants l'ont allongée au sol en attendant les pompiers. Elle voit la voiture qu'ils viennent de percuter.
J'ai vu le feu, la voiture en feu. Donc, le conducteur, en fait, il a essayé de sortir, mais il n'arrivait pas. Du coup, il est mort brûlé. Ça m'a fait beaucoup de peine quand je l'ai su. Parce que moi, je suis une... En fait, on dirait que c'était moi, je l'avais tué. Parce que j'aurais pu dire au conducteur de ne pas conduire.
Tout ça, c'est ce que la jeune fille a raconté à la police. L'homme soupçonné d'avoir été au volant a été placé en détention et ce sera à l'enquête de dire s'il a effectivement consommé de l'alcool et du protoxyde d'azote. Erika, elle, est sortie de l'hôpital avec une hanche déplacée. Sa mère est très en colère.
Au moment où ils savaient qu'ils allaient prendre ça, ils auraient dû dire non, on prend pas la voiture. On reste, sur un parking.
On aurait dû lui dire de pas conduire. Je sais pas, moi je sais, je vais plus en prendre, je vais rien faire. ça m'a réveillée un peu.
Sa mère n'arrête pas de penser au jeune homme qui est mort dans l'accident. Elle voudrait écrire une lettre à sa famille.
Marc Bertrand, dans un instant, la bataille des municipales à moins de 2 mois du scrutin, la suite de la série de reportages avec le service politique de France Info ce matin à Bordeaux. D'abord, l'info en une minute.
France Info, 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité à 5h20, c'est avec Diane Ferschit. Bonjour Diane.
Bonjour à tous.
Et le premier titre de ce vendredi.
Donald Trump dit espérer ne pas devoir frapper l'Iran. Nous sommes puissants financièrement et militairement, affirme-t-il. Téhéran, de son côté, promet de frapper instantanément les bases et porte-avions américains en cas d'attaque des États-Unis. Un mois après le drame de Grand Montana, une quatrième personne placée sous instruction pénale. Il s'agit de l'actuel chargé de sécurité incendie de la ville. Il sera entendu la semaine prochaine. Son prédécesseur est lui aussi appelé à comparaître comme prévenu. Les deux hommes devront expliquer l'absence de contrôle incendie entre 2020 et 2025 au bar Le Constellation. Le candidat Rassemblement National à la mairie de Paris, Thierry Mariani, visé par une plainte pour discrimination, révélation de la cellule, investigation de Radio France, plainte déposée par l'association La Maison des Potes. Elle vise un point de son programme, une priorité nationale dans l'accès au logement social. Le groupe de domotique, Somfy, va supprimer 350 emplois en France, une grande partie en Haute-Savoie. Son siège est à Cluses, en cause selon la direction, un ralentissement structurel du marché européen. Au total, le groupe prévoit de supprimer 550 postes. À travers le monde.
France Info, municipale 2026.
La bataille des municipales à moins de 2 mois du scrutin. Ce matin, direction Bordeaux. En 2020, l'écologiste Pierre Urmic arrachait la ville à la droite, à la surprise générale. Cette année, le contexte est plus défavorable aux Verts, en perte de vitesse depuis leur très mauvais score aux dernières élections européennes. Malgré tout, Pierre Urmic est à nouveau candidat. Il espère bien rester à la mairie pour un deuxième mandat. À Bordeaux, pour France Info, l'état des lieux avec Elia Bergel.
Oui, et le maire sortant fait face à une opposition de centre-droit rassemblée, unie, objectif, reprendre la ville à la gauche.
Bonjour monsieur.
Le député macroniste Thomas Cazenave, tête de liste, également soutenu par les Républicains, en plein porte-à-porte dans un quartier résidentiel.
Et on vient pas parler des Girondins de Bordeaux. Hein.
Je sais déjà pour qui je ne voterai pas, mais je sais encore pour qui je vais voter.
Thomas Cazenave profite des échanges avec les habitants pour attaquer la municipalité sur l'éclairage public de certaines rues.
Couper à 1h du matin, c'était quand même une drôle d'idée.
Il faut quand même garder un minimum de mise en lumière.
C'est aussi un sujet un peu de sérénité.
L'insécurité s'invite dans cette campagne des municipales, même chez Zoé, qui apprécie pourtant le maire sortant, Pierre Urmic.
Cependant, je ne vais pas revoter pour lui cette année.
La jeune femme décrit un quotidien parfois difficile dans certains quartiers de Bordeaux.
C'est beaucoup de remarques, c'est beaucoup de regards insistants, c'est pas mal d'agressions.
Et face à ces critiques, entre autres en lien avec l'éclairage, le maire écologiste reconnaît une erreur.
On s'est rendu compte que ça pouvait créer de l'insécurité dans certaines rues. Donc on est revenu en arrière. Bon, le centre-ville reste entièrement éclairé et des rues qui sont moins fréquentées, elles restent toujours éclairées jusqu'à 2h30 du matin.
L'écologiste se représente avec le soutien du PS et des communistes et comme en 2020, il affronte sur sa gauche notamment la France Insoumise, emmené par Nordine Raymond.
Il y a eu tout un tas de promesses et un espoir qui a été déçu par cette élection, qui n'est pas au rendez-vous des attentes qu'avait provoqué l'élection de Pierre Urmic en 2020. Le maire Pierre Urmic a continué à construire à tout va, n'a pas interdit les paquebots de croisière qui sont ultra polluants.
Argument inaudible, balaye le maire en campagne.
Alors, comment ça marche?
Très bien, franchement.
Vous voyez déjà, ça sent très bon dans ce magasin.
Défense de son bilan auprès de commerçants, notamment la piétonnisation.
Il y a moins de voitures, effectivement.
Les clients bordelais, en effet, je vous le confirme, recherchent cette tranquillité de piétonnisation dans les rues commerçantes.
Ça nous a permis de baisser la pollution de l'air de 35%.
Les rivaux de gauche du maire lui reprochent aussi d'avoir armé une partie de sa police municipale. J'assume, répond l'écologiste Pierre Urmic.
Je suis défini comme un maire qui n'est ni shérif, ni naïf et qui cherche des solutions adaptées et surtout équilibrées.
Recherche permanente d'un équilibre délicat à trouver pour un maire de gauche dans une ville dirigée par la droite pendant plus d'un demi-siècle. Pierre Urmic espère faire mentir ceux qui disent que son élection en 2020 n'était qu'un accident.
Élie Abergel à Bordeaux pour France Info. À 5h24, le monde d'Élodie avec Élodie Suigo et son invité.
Bonjour Benabar.
Bonjour.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué.
Benabar ou Barnabé, en Verlan, vous êtes effectivement cet artiste attiré par la piste aux étoiles, celle du cirque à la base, tantôt clown triste, tantôt clown drôle. Ce sont vos mots hein, qui vous ont permis de conter vos histoires et donc votre monde. Et les invitations à enchaîner les tours de piste n'ont pas manqué d'attirer le public, qui aime jouer d'ailleurs à s'approprier vos paroles pour en faire leur au cours de vos 2000 concerts déjà donnés, de vos 3 millions de disques vendus. Et pourtant, il ne faut pas se leurrer, la musique est d'abord un bon moyen de vous évader et de prendre du recul. C'est d'ailleurs ce que vous chantez dans votre dernier album, Le Soleil des Absents, qui sort aujourd'hui. C'est d'abord un hommage à Denis, ami de la première heure, accordéoniste, compositeur, frangin de scène, comme vous le dites, donc compagnon de route et de vie depuis 30 ans. Les Absents n'ont donc pas toujours tort.
Non, c'est vrai, puis il faut respecter aussi leur choix. Il se trouve que Denis a mis fin à ses jours, donc c'est aussi ça rajoute un trouble supplémentaire à la disparition d'un ami, mais qu'il faut aussi respecter, quoi. C'est une position, je l'explique à personne, hein, tout le monde, mais qui est particulièrement confortable.
Le fait que Denis ait disparu, ça donne une saveur particulière à la tournée qui arrive, Bruno, c'est-à-dire ce besoin justement de profiter davantage des autres, de cette équipe, de cette bande de potes, d'être sur la scène et d'être sur la route ensemble.
Oui, vraiment, ça nous a tous, en plus musiciens, techniciens, on tourne ensemble depuis très longtemps, 20 plus pour beaucoup. Et c'est sûr que ça donne une patine complètement différente, parce que c'était pas du tout, Denis était avec moi depuis le début, puis il était pas du tout de jouer, question de jouer un jour sans Denis. Ça n'avait jamais été envisagé, en fait. Donc ça change tout. C'est ce qui a aussi... Là, j'ai pas tourné pendant pas mal de temps, quand même. L'album, on l'a fait deux fois, quand même. On a retourné en studio. Enfin, ça a été... Non pas dans la douleur, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, ça a été laborieux sentimentalement, en fait. Et la tournée va partir comme ça. Et c'est vrai qu'on y réfléchit tous, de savoir comment ça va se passer. Puis moi, c'est la première fois que j'ai pas tourné aussi longtemps. Puis aussi, au niveau de l'âge, comment ça va se passer. C'est-à-dire que, vu la vie de tournée d'adolescent qu'on a au tournée, est-ce qu'on est encore capable de la mener.
Vous parlez de la soif de reconnaissance.
Oui.
Et vous dites que c'est héréditaire. Oui. Ça veut dire que ça, votre père ou votre mère vous l'ont transmis ?
Oui, je crois, ouais. Et puis d'ailleurs, je crois qu'on est nombreux à avoir ça, la soif de reconnaissance, même si on s'en cache. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus spectaculaire quand on fait des métiers de lumière. Enfin, dans la lumière, pas forcément de lumière d'ailleurs. Mais, donc nous, on est obligés un peu de l'assumer quand même, parce que sinon, ce serait idiot. Mais je crois que c'est un peu partout, la soif de reconnaissance. Mais ça commence par celle de ses parents, de ses frères, de ses copains. Enfin, elle est permanente et ça aussi, c'est quand même un danger, plus qu'un enjeu. Ça peut écraser une vie à courir toujours après une reconnaissance qui vient pas forcément. Et puis quand elle vient, j'ai eu la chance d'avoir cette reconnaissance, c'est très satisfaisant au niveau de l'ego, mais c'est pas ça qui change une vie, quoi.
J'ai l'impression même qu'elle n'a pas réussi à combler cette espèce, pas de vide, mais de manque que vous aurez toute votre vie, en fait.
Peut-être, oui, peut-être, et j'ai pas accordé beaucoup d'importance. Ça, c'est un danger qu'on a, évidemment, quand on écrit, quand on fait quelque chose d'artistique avec toutes les guillemets possibles. Justement, de vouloir séduire, on passe à côté de plein de choses, ça, j'en suis vraiment convaincu. Je l'ai vu, moi, les quelques fois où j'ai essayé, j'ai vu plein de copains qui font ça beaucoup, et je trouve qu'ils se perdent.
Dans le titre, quoi qu'on en dise, vous dites, il y a toujours un fantôme dans le placard. On est des menteurs sincères et efficaces. On se donne le bon rôle. Mentez-vous encore aujourd'hui? Quel est le plus beau rôle de votre vie?
Le plus beau rôle, c'est pouvoir mener cette vie globalement, de monter sur scène. Je répète d'interview en interview, mais je sais que j'ai cette chance-là de pas être blasé, de pas être fatigué. T'es toujours un peu surpris d'être ici. Franchement, c'est-à-dire même avec l'habitude, c'est pas jamais un détail pour moi. Et ça, je crois que c'est une grande chance d'avoir pu maintenir ça. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou le public qui m'a permis de le faire, mais en tout cas, je me rends compte à quel point ce serait triste d'avoir une Ferrari dans le garage et puis de même plus en utiliser, puis de trouver ça normal d'avoir une Ferrari, quoi.
C'est vraiment votre regard hein, qu'on découvre. Il y a 3 jours, 3 nuits, qui est une chanson qui est totalement différente dans cet album, qui vient nous cueillir. Alors, pourquoi elle nous cueille? Parce que vous nous racontez la vie de couple, les difficultés d'une vie de couple quand l'un ou l'autre finit par s'absenter parce qu'il a une histoire ailleurs. Et la difficulté pour la personne qui reste de devoir justement protéger les enfants de ces histoires d'adultes,
oui.
De faire en sorte que la personne qui s'en va, quand elle revient, de la maintenir le plus possible à la maison et de faire en sorte qu'elle ne reparte plus.
Oui.
C'est fait avec un sourire qui est assez bluffant.
Oui, parce qu'il y a toujours le côté, y compris dans les chansons tristes, ce qu'on ne sait pas forcément d'ailleurs de l'extérieur, c'est que c'est aussi, ça peut être très ludique d'écrire une chanson triste, parce qu'il y a ce côté manipulation de, là c'est du pur, c'est vraiment une scène de théâtre ou de, d'ailleurs ça a été fait plein de fois, ou de cinéma, cette attente, ce flottement, est-ce qu'elle va rentrer, qu'est-ce qui se passe quand elle rentre, elle le regarde, parce que bon, elle attend que le mec la foute dehors ou pas, ou l'accepte, enfin tout ce moment-là d'attente. J'espère qu'elle est émouvante au final, mais en tout cas quand on l'a fait, c'est presque peut-être pas marrant, mais il y a quelque chose, ouais, de vraiment ludique, c'est vraiment le terme.
Merci beaucoup Benabar d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Bruno. Votre nouvel album Le Soleil des Absents vient de sortir. Vous serez en concert à l'Olympia le 29 avril prochain, au Palais des Congrès de Poitiers le 21 novembre et à Niort le 13 décembre. Il y a plein d'autres dates. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au petit matin,
de retour de je sais pas où. Valise à la main, dans le salon, debout, elle ôte ses talons, sans me quitter des yeux, disant à sa façon, je repars si tu le veux. À mon silence, elle répond.
Le Monde d'Elodie avec Elodie Suigo et ce matin avec Benabar à retrouver sur franceinfo.fr.
France Info Météo avec Verisure. En 2026, priorité à votre sécurité. Faites confiance à Verisure, alarme télésurveillée numéro 1 en France. Devis gratuit sur verisure.fr.
Et avant le journal, à 5h30, un point météo avec Christine Peña, avec un défilé. Christine, pas très glamour, hein, le défilé des perturbations, ça continue.
Et encore de la pluie avec plusieurs systèmes pluvieux, vous avez raison, et venteux, hein, qui continuent de traverser le pays. Le vent se renforce d'ailleurs aujourd'hui sur la façade atlantique. Ça souffle fort, la neige est encore attendue en montagne et les températures sont toujours très contrastées entre le froid qui se maintient sur le nord-est, avec encore des gelées ce matin en Lorraine, Alsace par exemple, hein, et alors qu'il fait déjà 11 degrés sur l'île d'Oléron, 12 degrés à Hossegor sur la côte landaise, comme à Calvi en Corse. Et cet après-midi, on ira de 6 à Strasbourg, ça reste froid, jusqu'à 15 à Montpellier, Marseille et Toulon, 14 à Toulouse.
Christine Peña, merci d'écouter France Info, il est 5h30.
France Info, Jean-Christophe Martin.
Le bout du tunnel pour le budget de l'État, c'est ce matin que Sébastien Lecornu va déclencher une nouvelle fois l'article 49.3 à l'Assemblée. C'est la troisième et dernière fois qu'il le fera sur le budget, Audrey Tison, et ce sera dès 9h ce matin.
Oui, dès le début de la séance, Sébastien Lecornu va apparaître dans l'hémicycle et prononcer la fameuse phrase « En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement sur la totalité du projet de loi de finances ». Il l'avait déjà fait sur la partie dédiée aux recettes, puis sur la partie dépenses. La chorégraphie pour la suite, on la connaît. Une motion de censure va être déposée par les communistes, avec les signatures de la France insoumise et des écologistes. Peu de chances qu'elle aboutisse, les socialistes ne la voteront pas ce lundi. Le Rassemblement national va aussi déposer une nouvelle motion, sans grande illusion. Mais c'est la dernière chance de bloquer ce mauvais budget, commente un cadre mariniste. Si aucune motion n'aboutit, le gouvernement restera en place et le budget 2026 sera considéré comme adopté ce lundi, mettant fin à plusieurs mois de vote et de négociations.
Audrey Tison du service politique de France Info. Des milliers de comptes bancaires débités à tort une seconde fois pour une même opération. Le Crédit Mutuel Arkéa reconnaît un incident technique dans ses services. C'était mardi. Le bug a redéclenché des transactions déjà comptées. Le problème est en voie d'être résolu. Les comptes progressivement recrédités. Les banques s'y engagent et demandent juste à leurs clients encore un peu de patience. Emmanuel Macron durcit encore le ton dans la lutte contre le narcotrafic. Le président a organisé une nouvelle réunion hier à l'Élysée. Autour de lui, sept ministres à qui il a demandé de renforcer l'arsenal policier et judiciaire dans la lutte contre le trafic de drogue et le démantèlement des cartels, avec à la clé de nouvelles mesures spécialement pour les Antilles, un plan douane présenté d'ici un mois. Objectif, muscler les contrôles dans les ports et les aéroports avec l'utilisation notamment de nouveaux scanners. Le groupe Somfy, basé à Cluses, va supprimer près de 350 emplois sur 2800 en France, dont une grosse partie en Haute-Savoie. Au total, 550 suppressions de postes dans le monde. Les sites français du pionnier de la maison connectée sont particulièrement concernés. L'entreprise est l'un des plus gros employeurs en Haute-Savoie. Dans le bras de fer entre Washington et Téhéran, Donald Trump espère ne pas devoir frapper l'Iran après avoir affirmé que le temps était compté avant une opération militaire si l'Iran n'accepte pas très vite un accord sur le dossier nucléaire. Et le tennis avec les demi-finales messieurs en ce moment à l'Open d'Australie. Et c'est Fabrice Abgral qui suit les matchs pour France Info. Le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, face à l'Allemand Alexander Zverev, le numéro 3, Fabrice.
Et pour l'instant, avantage à Carlos Alcaraz. Il a pris une légère option hein, sur la finale, ce qui serait sa première finale à l'Open d'Australie au numéro 1 mondial. Il a pris une option tout simplement parce que Carlos Alcaraz vient de remporter le premier set sur le score de 6 jeux à 4. Tout se passait très bien pour Alexander Zverev. Aucun des deux joueurs n'avait perdu jusqu'à présent sa mise en jeu. Et puis dans le 9e jeu, eh bien qu'Alexander Zverev a craqué tout simplement. Carlos Alcaraz a réussi à faire le break. Il a confirmé le break derrière, donc dans le 10e jeu. Et il a donc remporté cette première manche en 41 minutes et Carlos Alcaraz au début du deuxième set se procure déjà une balle de break sur le service de Alexander Zverev pour mener 1-0. Service à suivre.
Fabrice Abgraal et la deuxième demi-finale, messieurs, à partir de 9h30. Novak Djokovic, actuel numéro 4 mondial face au numéro 2 et double tenant du titre, Yannick Sinner. Le football, Lyon termine à la première place de la phase de poule en Ligue Europa après sa victoire à domicile 4-0 face au Grec du PAOK Salonique, l'OL qui était déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Lille, vainqueur à Fribourg 1-0, termine 18e et jouera les barrages. Nice était déjà éliminé. Vous écoutez France Info, il est 5h34.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Les gardiens de la révolution islamique en Iran sont désormais classés organisation terroriste par l'Union européenne, décision qui s'ajoute à la menace d'une intervention militaire américaine. L'Iran a promis de frapper instantanément les bases et les porte-avions américains en cas d'attaque des États-Unis. Sur cette montée des tensions entre Téhéran et Washington, les explications du général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
Tous les ingrédients sont rassemblés effectivement pour aller vers une confrontation armée. D'un côté, les États-Unis qui ont accumulé depuis 15 jours des forces extrêmement conséquentes, avec une médiatisation autour de l'arrivée du porte-avions Abraham Lincoln, et de l'autre côté, des Iraniens qui ne cessent de dire qu'ils sont prêts à frapper, couler le porte-avions, frapper les bases américaines. Donc on est dans une montée de la tension. Maintenant, la problématique, c'est qu'on ne connaît pas quelle va être la suite du feuilleton.
Quelles sont les hypothèses générales ? Est-ce qu'on déplace d'abord une telle armada uniquement pour faire pression ?
C'est là aussi l'une des difficultés pour, en quelque sorte, voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, d'abord, il faut rappeler que tout démarre de par la révolte du bazar, les commerçants de Téhéran, pour des questions finalement d'ordre intérieur, la vie chère, l'inflation. Bon, et puis il y a 15 jours ou 3 semaines, Donald Trump dit aux Iraniens, l'aide va arriver, on va arriver. Et donc à ce moment-là, en l'espace de 48 heures, on a une répression qui est épouvantable, que l'on n'a pas connue depuis des décennies, dans le monde, hein, puisqu'on estime à plus de 30 000 le nombre de mort, ce qui est absolument effrayant. Et donc, en quelque sorte, on est dans cette situation où les Iraniens ont cru qu'ils allaient bénéficier de l'appui américain. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Que fait Donald Trump ? Changement de régime, punir, et ça, c'est là où c'est extrêmement compliqué, parce qu'il n'y a pas de bonne solution.
Autre question, et je vais vous la poser directement, parce que vous êtes évidemment militaire, mais quelles pourraient être les cibles américaines en Iran ? Quelles seraient les cibles potentielles ?
Alors, si on raisonne uniquement sur un plan militaire, je ne parle pas d'un plan politique, les cibles, elles peuvent être de plusieurs ordres. Par exemple, des cibles, on va dire, à caractère militaire. C'est-à-dire, je frappe des installations militaires, comme ce qui avait été fait au mois de juin l'année dernière sur les installations nucléaires iraniennes, qui avaient provoqué des dégâts, qui n'ont pas arrêté définitivement le programme nucléaire, mais ce type de frappe peut être répété, d'autant plus qu'il faut quand même le rappeler, les États-Unis connaissent parfaitement l'environnement de l'Iran. Il n'y a pas un mètre carré de l'Iran qui n'est pas numérisé dans les ordinateurs tant de la CIA que de l'US Air Force, de l'US Navy. Bon, des cibles militaires. Il peut y avoir des cibles économiques. Par exemple, tout ce qui est lié aux exportations d'hydrocarbures, parce que c'est par là que l'Iran, en fait, l'essentiel de des revenus, c'est l'exportation du pétrole, notamment vers la Chine. Donc détruire des terminaux pétroliers priverait l'Iran de ses ressources en hydrocarbures. Et puis après, il peut y avoir des cibles, on va dire, ciblées en quelque sorte, c'est-à-dire les dirigeants du régime, d'une part du côté du guide suprême, Ali Khamenei, du côté des gardiens de la révolution. Il y a par contre une certitude, c'est que ce n'est pas en bombardant qu'il y aura un changement de régime. Le changement de régime ne peut venir que de l'intérieur.
Le général Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, il répondait sur France Info à Julien Langlais. Il est 5h39, une alerte des professionnels des énergies renouvelables pour sauver leurs emplois. Tout le secteur attend depuis plus de 2 ans un texte essentiel, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Depuis 2024, les gouvernements successifs promettent de la publier prochainement, mais rien ne vient. En attendant, beaucoup de projets sont à l'arrêt, les conséquences deviennent très concrètes, avec donc des suppressions de postes. Lauriane Delanoë a rencontré pour France Info 3 patrons de la filière solaire en région lyonnaise, qui lance un appel au gouvernement.
On a été très patient, affirme ce patron, mais là...
Là, il y a une urgence absolue, chaque semaine compte. Là, il faut que des choses arrivent en février, qu'on ne nous laisse pas dans un brouillard mortifère.
Stéphane Moreau dirige l'entreprise Unit, 100 de salariés en France, et peut-être moins bientôt.
On a 25 personnes passionnées qui vont de ceux qui cherchent les terrains à ceux qui font la définition technique. C'est cette équipe-là qui est menacée, celle qui fait du développement de nouveaux projets.
Car ces projets dépendent de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie et du texte actuel en vigueur, mais aujourd'hui tout semble bloqué, dénonce Stéphane Moreau.
L'État nous dit, je réfléchis à la prochaine loi, donc on arrête de faire ce qui était déjà programmé. Imaginez le vide intersidéral dans lequel on est. La première chose à faire, c'est de dire, l'appel d'offres qu'on a suspendu en décembre et qu'on a oublié de mettre en place en janvier, mettons-le début février. Et là, ça sera un signal fort pour dire, vous avez au moins 6 mois devant vous pendant lequel vous pouvez travailler. Mais si on nous annonce rien, faut-il garder l'équipe de développement et faut-il la réduire? Faudra le faire en février si on n'a pas de visibilité.
De nombreuses entreprises sont dans cette situation, d'après Clara Trévisiol, présidente du syndicat Aura Digital Solaire.
Syndicat qui représente les acteurs du solaire en région Auvergne-Rhône-Alpes. La moitié de nos adhérents envisagent de se séparer de 15 à 20% de leurs effectifs. Ça représente quasiment 10 000 d'emplois, potentiellement rien qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, direct et indirect, ce qui est colossal dans l'absolu, mais encore plus dans un secteur où on est censé contribuer à la transition énergétique. On parle des enjeux climatiques, de souveraineté énergétique, on parle de pouvoir d'achat. Donc c'est d'autant plus incompréhensible dans ce secteur d'activité.
Ces suppressions de postes s'ajouteraient à celles déjà actées l'an dernier face au fort ralentissement de l'activité. Bruno Gervais, le gérant de la société iséroise APEM Énergie, n'a pas eu le choix.
Nous, on est sous-traitants. Si les professionnels n'ont pas de visibilité et ne peuvent pas vendre des installations photovoltaïques, ils ont moins de travail à nous donner. Aujourd'hui, on est 26 personnes. On a déjà licencié 15 de personnes depuis août. Voilà. L'idée, c'est d'avoir restructuré la société pour tenir. Mais si rien ne sort, on sera en difficulté. S'il n'y a pas de décision de prise, c'est impossible à vivre.
Et le solaire n'est pas la seule filière en difficulté. Le secteur des éoliennes est aussi en train de réduire la voilure.
Lauriane Delanoë, il est 5h42, le Sénat a voté hier soir la reprise de l'exploitation des hydrocarbures pour l'outre-mer contre l'avis du gouvernement. Le texte vise à lever l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Cette proposition de loi prévoit de revenir sur les dispositions de la loi Hulot de 2017 qui interdisait toute prospection d'hydrocarbures sur le territoire français, sur terre comme en mer, et elle est défendue par le sénateur macroniste de Guyane, Georges Patient.
J'étais très favorable depuis l'origine de cette loi à ce que cette interdiction ne s'applique pas aux Outre-mer. J'avais même proposé des amendements en ce sens qui ont été acceptés au Sénat, mais pas à l'Assemblée nationale à l'époque, ce qui fait que cette loi a été appliquée en Guyane. Et depuis, nous voyons à côté de chez nous, au Suriname et au Guyana, se multiplient les forages et les découvertes et les exploitations de gisements de pétrole.
Georges Patient, est-il vrai que l'on peut comprendre l'enjeu de l'exploitation pétrolière d'un coup d'œil pour la Guyane à la frontière avec le Brésil, sur les deux rives du fleuve Oyapock, quand on compare ce qui s'y passe?
Depuis l'annonce, simplement l'annonce, de l'autorisation de forage par Lula sur la partie brésilienne.
Le président brésilien, oui.
C'est ça, on assiste depuis à un boom, on peut dire quasiment économique. À côté de 20 000, on est passé quasiment à 150 000 habitants, des acquisitions foncières, à des ouvertures de commerce. Bon, ça bouge.
Donc vous êtes sûr que ce serait un bénéfice économique pour la Guyane, sauf qu'il y a un petit problème, apparemment, Georges Patient. Certains disent aux élus comme vous que du pétrole en Guyane et au large de la côte, il n'y en a pas. Juliette Renaud est la coordinatrice des Amis de la Terre.
Ils essayent de faire miroiter un peu des promesses pour ces territoires d'outre-mer, alors que ça serait surtout un mirage. Et pour nous, ça ferait surtout de ces territoires des nouvelles zones de sacrifice. Il y a déjà eu un grand nombre de campagnes d'exploration, de forage d'exploration pétrolière, notamment par Total, pour lequel nous on s'était opposés, et ils n'ont jamais trouvé de pétrole qui est économiquement exploitable. Donc même les pétroliers en Guyane ne pensent pas qu'il y a un réel potentiel. Et même s'il y avait ce pétrole, le problème c'est que ça ne va pas créer des emplois au niveau local, parce que c'est une activité qui est très intensive en capital et non en emploi. Et par contre, ça va détruire des économies locales, notamment les personnes qui dépendent de la pêche, mais aussi du tourisme.
Georges Patient, sénateur de Guyane, vous qui voulez qu'on reprenne l'exploration et l'exploitation, si on trouve du pétrole, au large de la Guyane. Sur ce premier point, il n'y a pas de pétrole au large de la Guyane.
Écoutez, c'est une leçon, une litanie bien apprise et bien récitée par les ONG ou les militants ONG hors sol de Guyane.
Bah, Total, déjà, apparemment, a dit que ce n'est pas exploitable le pétrole qu'on pourrait trouver.
Déjà, premièrement, la loi Hulot, c'est la recherche, l'exploration, l'exploitation. S'il n'y en a pas, qu'il se rassure. Pourquoi déjà parler d'exploitation ? Nous, on parle dans un premier temps, de rouvrir les explorations, parce qu'on sait qu'il faut passer d'abord par là. Deuxièmement, on comprend difficilement qu'en face de la Guyane, il y ait du pétrole et que subitement, la nappe s'arrêterait au niveau de la Guyane. Eh bien, vous savez, l'écologie du plateau des Guyanes ne connaît pas les frontières politiques. Les frontières politiques, on sait qui c'est qui les a faites à l'époque. Mais bon, la géologie ne suit pas les frontières politiques.
L'exploration ou l'exploitation pétrolière pourrait nuire au tourisme, à la pêche. C'est ce que disent certains. Est-ce que vous pensez vraiment que la population de Guyane vous soutient, vous ?
Non, mais écoutez, me demander si la population de Guyane me soutient, j'ai l'appui, ça c'est certain, des élus de Guyane, que ce soit les maires, les 22 maires sont favorables, ils m'ont écrit un courrier signé à l'unanimité, le président de la collectivité territoriale est pareil, les députés pareil, donc effectivement, je peux considérer que j'ai un appui de ceux qui représentent la population guyanaise.
Le sénateur macroniste de Guyane, Georges Patient, il répondait sur France Info à Jules Dequisse. Et un mois après le drame de Cran Montana, France Info fait le point de l'enquête avec aussi ce matin des reportages auprès des blessés, de leurs proches et des familles. C'est dans un instant le choix de France Info. D'abord l'info en une minute.
France Info, 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité à 6h moins le quart avec Diane Ferchit et le premier titre, Diane, Emmanuel Macron qui veut muscler la lutte contre le narcotrafic.
Le chef de l'État annonce un plan douane massif dans les ports et aéroports, une mobilisation plus forte aux Antilles ainsi qu'une campagne de sensibilisation. Plan qui sera détaillé dans un mois. Il annonce également des opérations coup de poing dans plusieurs aéroports dans les prochains jours. L'ancien PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, condamné à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, condamné pour corruption et diffusion d'informations fausses au sujet de la situation de son entreprise. Il est également condamné à 1 million d'euros d'amende. Il va faire appel. L'ONU appelle au dialogue pour éviter une crise aux conséquences dévastatrices, alors que l'Iran assure qu'il frappera instantanément les bases et les porte-avions américains en cas d'attaque des États-Unis. Washington continue de faire peser la menace d'une intervention militaire. J'espère ne pas devoir frapper l'Iran, déclare Donald Trump. Une loi pétrolière favorable au secteur privé, adoptée par le Venezuela, adoptée sous pression américaine. Un pas important, affirme la présidente par intérim du pays. Après un entretien téléphonique avec Donald Trump, le président américain qui a annoncé un peu plus tôt la réouverture de l'espace aérien vénézuélien aux vols commerciaux.
France Info.
Comment vont-ils ? Un mois après la catastrophe de Cran Montana, le centre des grands brûlés du CHR de Metz a accueilli 4 rescapés de l'incendie du bar Le Constellation dans la nuit du Nouvel An. C'est ce matin le choix de France Info. Aujourd'hui, ils vont mieux, mais le combat a été très dur et ce n'est pas fini. Sur place, pour France Info, le reportage de Julie-Marie Lecomte.
C'est un service à l'accès très restreint dans lequel j'ai été autorisée à entrer.
Sur chaussures et la charlotte.
C'est important de s'habiller pour rentrer dans le service.
Ah, c'est indispensable. C'est des règles d'hygiène à respecter pour les patients qui ont besoin d'être protégés de l'environnement extérieur et des germes qu'on peut éventuellement leur amener, quoi. Ils sont beaucoup plus fragiles que la population, entre guillemets, en bonne santé.
Alors je m'équipe.
Jamais plus de 4 visiteurs par jour et par chambre, 2 seulement en même temps, là encore pour protéger les patients. Monsieur et Madame Aubrin sont là tous les après-midi, dès que les visites sont possibles. Ils viennent voir leur fils, Mathieu. Il était serveur aux Constellations.
Le quotidien, c'est Mathieu. Et à 14h30, lui nous attend, nous on l'attend.
Et il vous engueule quand vous êtes en retard.
Ouais. Et il a raison, puisqu'on lui fixe des horaires, et il a, pour se reconstruire aussi, ses besoins d'avoir une temporalité dans la journée. Il a besoin, on lui a acheté un petit réveil avec un lumineux. Il s'attache à des petites choses du quotidien. Donc oui, quand on est en retard, ouais, il nous engueule. Ouais.
Aujourd'hui, Mathieu se raccroche à des détails et son père en sourit. Parce qu'il a vraiment cru le perdre.
Il est resté intubé très longtemps. Hein. Il a eu, au-delà des brûlures, lui, il a été beaucoup touché au niveau des poumons. Il a fait deux infections sévères qui ont, pour l'une, généré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, puisqu'on nous a signifié que on était sur un pic critique. On nous a laissé entendre, sans nous le dire, que ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre.
Il va comment, votre fils ?
Il a les deux bras, les deux mains, le dos, l'épaule. Il est brûlé à 25% du corps. Greffé sur une grande partie donc voilà, du corps, le dos, les bras, les mains.
Pas question évidemment de déranger Mathieu sur son lit d'hôpital. Pendant toute la période critique, il est resté dans l'une des 6 chambres de réanimation, des chambres très particulières équipées comme des mini-blocs opératoires.
Sophie Capps, coordonnateur des soins critiques, dont le service des brûlés. Toutes les greffes, tout ce qu'il y a à faire, le patient ne sort pas de la chambre. Ce qui lui permet de rester dans le même environnement. C'est beaucoup mieux pour lui au niveau hygiène et au niveau confort.
C'est entre 2 et 3 interventions par semaine.
Riyad Al-Eddine est chirurgien plastique.
Moi, mon rôle, c'est exciser toute la peau brûlée et puis prélever la peau saine d'un endroit qui n'a pas été brûlé et appliquer sur tout ce qu'on a enlevé comme brûlure. Des fois, ça dure entre 6 et 7 heures chaque intervention.
Le visage de Mathieu n'a pas été touché, mais Lionel Aubrin raconte le choc quand son fils a vu dans quel état sont ses mains.
Quand il en a pris la mesure, émotionnellement, il s'est effondré. Lui se voyait travailler dans 3 mois. Quand on lui a dit que le temps serait plutôt de l'ordre de l'année, voire de 2 années, il s'est effondré. Physiquement, il est très abîmé. Psychologiquement, c'est pareil. Et donc, on s'attend à un long, long travail de reconstruction, tant physique, bien évidemment, mais surtout psychologique, parce que les premières choses qu'il nous évoque, je n'en dirai pas beaucoup plus, mais sont dramatiques dans ce qu'il a pu voir et vivre.
Une psychologue passe 3 fois par semaine, le choc post-traumatique et le choc de découvrir son nouveau corps. Les soignants sont là pour les accompagner.
Il y a des parties du corps où il n'y a pas besoin de miroir. Si les gens sont brûlés au niveau des jambes, des bras, une fois que le pansement commence à s'alléger, les gens voient.
Alors je suis Mélanie, je suis infirmière au centre de traitement des brûlés depuis 22 ans. Souvent on nous demande de cacher. Il y a des gens qui ne veulent pas voir et qui demandent de cacher pour eux ou pour la visite. La nouvelle image de soi est quelque chose d'important et c'est une étape qui peut être difficile pour les patients. On leur apprend à prendre en charge leur nouveau corps en fait, tous les jours.
Aujourd'hui, Mathieu est hospitalisé dans une chambre de soins continus, changement des pansements tous les 2 jours, longtemps sous anesthésie générale, et puis déjà de la rééducation, raconte son père.
Oui, des exercices de travail avec ses mains, de travail avec ses bras. Il est incapable de se tenir debout, il est tout juste capable de se mouvoir. C'est un jeune homme de 27 ans dans un corps d'un vieillard de 97 ans. Il n'a plus de masse musculaire. C'était un gaillard qui faisait 1m80, 74 kg, et tout en muscles, il n'y a plus rien.
Voilà, nous avons notre kiné qui est là, si vous voulez.
Bonjour, moi c'est Lucie, je suis la kiné qui intervient au centre des brûlés de Metz. Tout ce qui est musculaire passe vraiment en second plan, puisque d'emblée, le patient va consommer beaucoup d'énergie à cicatriser ses plaies et tout simplement survivre au début. Le grand public, on a un peu l'idée du kiné soit libéral, soit entre guillemets du sport. Et effectivement, non, ici c'est pas du tout ce que je fais. Passer dès le premier jour, que le patient soit sédaté, endormi ou qu'il soit réveillé. Le but, c'est de travailler sa peau, lutter contre les désagréments, les séquelles que peuvent provoquer des cicatrices. Et dès que c'est possible, dès que c'est des patients qui sont réveillés, il faut les faire participer au maximum dans leurs activités de la vie quotidienne, qu'ils puissent réapprendre à utiliser leurs mains, remarcher. À partir du moment où ils peuvent faire des choses eux-mêmes, forcément, ça leur redonne confiance aussi et c'est quelque chose de motivant pour eux.
C'est une étape ici, on sauve sa vie d'abord.
Oui. On essaye de se reconstruire un petit peu et puis après la reconstruction est encore longue à la sortie et
en rééducation.
Il y a un avant-brûlure et un après-brûlure.
Un mois après, le pire est derrière, mais c'est un marathon qui commence, dit Boris Glavnik, le chef du service. À partir d'aujourd'hui, ils ne seront plus que 2 victimes de l'incendie en Suisse à rester ici. Mathieu ne sait pas encore quand il pourra être transféré en centre de rééducation.
Julie-Marie Lecomte à Metz pour France Info. Et à 5h53, tout de suite, c'est le réveil de l'écho.
Le réveil de l'écho avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Avec Emmanuel Cugny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Toute l'actualité économique en trois titres. Toyota reste le premier constructeur automobile mondial.
Oui, malgré les vives tensions commerciales entretenues par les États-Unis, le géant japonais de l'automobile a vu ses ventes grimper à un nouveau record l'année dernière. Toyota a écoulé sur le marché près de 11,5 millions de véhicules. Cela représente une hausse de 5% sur un an, ce qui lui permet donc de conserver son titre de premier constructeur mondial pour la sixième année consécutive, creusant encore un peu plus l'écart avec son rival, Volkswagen. Le groupe allemand, lui, a vu ses ventes mondiales reculer de 0,5% à 9 millions de voitures.
L'activité des petites entreprises françaises est en baisse pour la troisième année consécutive.
Oui, alors que l'économie française a plutôt bien tenu l'année dernière, les TPE, les très petites entreprises qui emploient moins de 10 salariés, n'ont pas suivi cette tendance. Selon l'UDP, qui représente les sociétés de proximité comme les artisans et les commerçants, eh bien leur chiffre d'affaires a reculé d'1% sur l'ensemble de 2025. Aucun secteur n'a été épargné. La fabrication, les services et la construction ont enregistré les baisses d'activité les plus importantes.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
La voiture électrique n'est pas la seule à rencontrer des difficultés en Europe. Le carburant propre pour les avions a lui aussi beaucoup de mal à s'imposer. La principale association mondiale de compagnies aériennes juge hors d'atteinte les objectifs d'introduction de carburant d'origine non fossile dans les réservoirs des avions de ligne à l'horizon 2035, en cause notre trop faible capacité de production du dit carburant.
Le Brief Éco, c'est dans une demi-heure à 6h23. À tout à l'heure Emmanuel, et tout de suite à 6h05, c'est la playlist du jour. Et ce matin, Diane Ferchit, un appel à la bienveillance.
Un appel que l'on doit à une superstar, Lady Gaga. La chanteuse reprend un titre bien connu des Américains, Won't You Be My Neighbor, veux-tu être mon voisin, tiré d'une émission célèbre pour les enfants des années 60. La chanson dit notamment que nos voisins sont ceux qui vivent près de nous, nos amis ceux qui sont dans nos cœurs, et termine par cette phrase: je crois que tu pourrais à la fois être mon voisin et mon ami. Des paroles qui prennent un sens particulier au vu des événements actuels aux États-Unis. Alors pour l'instant, seul un extrait a été dévoilé. On devrait entendre l'intégralité du morceau lors de la finale du Super Bowl dans deux semaines, la grand-messe du football américain, un événement qui semble ainsi s'inscrire de plus en plus en opposition à la politique de Donald Trump, avec le groupe de rock Green Day, ouvertement anti-Trump en ouverture, et Bad Bunny à la mi-temps. Et ce Super Bowl le 8 février, ce sera la seule date de Bad Bunny aux États-Unis. Le chanteur d'origine portoricaine n'a pas voulu y faire de concert, de peur que ses fans originaires d'Amérique latine ou centrale ne soient arrêtés par la tristement célèbre ICE. Vous savez, Jean-Christophe, la police de l'immigration. Des choix artistiques et très politiques que Donald Trump qualifie de déplorables. Il sera d'ailleurs absent du Super Bowl, l'événement le plus regardé de l'année aux États-Unis. Voilà, ça c'est Green Day, American Idiot, une chanson dont le groupe a même modifié les paroles l'été dernier pour dénoncer les MAGA, les partisans de Donald Trump. Green Day interprétera cette version-là, peut-être ou pas, on ne sait pas encore. Le 8 février prochain, ce sera donc pour ce Super Bowl qui aura lieu en Californie.
Green Day dans la playlist signée ce matin à Diane Ferchit.
France Info Météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur vérissure.fr.
Et avant le journal à 6h, la météo avec Christine Peña. Toujours la pluie, Christine, un peu partout. Toujours et aussi la neige pour la montagne.
Exactement, la neige attendue en montagne encore. Un petit saupoudrage pour aujourd'hui. Demain, ça sera surtout les Pyrénées qui vont être bien enneigées de nouveau. Les Alpes, un peu plus tardivement. Tout au long du week-end, nous avons ce défilé de perturbations. On en a plusieurs qui se succèdent. Celle d'hier est toujours en train de passer entre la Belgique et Paris. Elle donne encore des pluies ce matin sur le sud également. Elle va se décaler vers l'est. Elle donnera de la neige sur les Alpes. Et puis, une nouvelle arrive. Elle est encore en mer, là, vers l'Atlantique, mais elle arrive assez rapidement, d'ici 8-9 heures, sur la Bretagne et puis toute la façade atlantique. Elle nous concernera à Paris, d'ailleurs, en fin d'après-midi, autour de 17-18 heures. Au niveau des températures, il gèle en ce moment sur le nord-est. Nous avons des températures relativement douces sur la façade atlantique, 10-11 degrés en ce moment. Et puis, cet après-midi, on ira de 6 à Strasbourg jusqu'à 10 du côté de Cherbourg et Rouen, 11 à Paris, 14 à Toulouse et le plus doux en Méditerranée avec 15 degrés à Marseille.
Christine Peña, il est presque 6 heures et pour 3 nouvelles heures d'infos, c'est Adrien Beck qui nous accompagne. Bonjour Adrien.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en ce vendredi matin. À mes côtés évidemment Christine Peña, bonjour à vous Christine.
Bonjour Adrien.
Je salue également Diane Ferchit.
Bonjour
Diane.
À tous.
Sans oublier bien sûr Solène Cresson.
Bah, oui, bonjour Solène.
Quand même. On vous retrouve dans quelques secondes pour le journal. Juste le temps de vous dire qu'un mois après le dramatique incendie de Grand Montana, nous faisons le choix ce matin de donner la parole aux familles, des familles qui se sentent parfois bien seules dans leur épreuve, car le chemin vers le retour à la vie est très long, très douloureux. Parole aussi aux soignants qui s'occupent de ces grands brûlés. Reportage grand format et témoignage bouleversant. Ce sera aux alentours de 7h moins le quart. Évidemment, beaucoup de choses encore vous attendent dans ce 6-9 qui commence tout de suite avec votre journal. Bienvenue, 6h.